La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale.
Aujourd'hui, j'ai le privilège de changer de siège et je vais avoir la chance de rencontrer Tom Eden, qui est un spécialiste de la Première et Deuxième Guerre mondiale, un grand, grand amant de l'histoire, quelqu'un originaire de Gaspé, mais sans plus attendre, je vais te laisser te présenter, c'est toi qui vas avoir le mérite de cela.
Ben merci Félix, puis ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben c'est ça, mon nom c'est Tom Eden, je suis originaire de Gaspé, plus spécifiquement Wacom, et puis dès un très jeune âge, j'ai développé un intérêt pour l'histoire militaire, dû au fait qu'à l'époque, dans les années 70, moi j'ai été élevé avec les anciens combattants étaient omniprésents, des voisins, des oncles, des grands-parents, etc. À l'âge de 18 ans, je me suis enrôlé à mon tour au sein des Forces armées canadiennes. Mais moi, j'ai été chanceux. Mon timing était bon. On parle du début des années 80. J'ai pas connu la guerre comme telle. J'ai été muté à Massett, en Colombie-Britannique, alert au territoire du Nord-Ouest. Mais en fait, aujourd'hui, c'est le Nunavut. Et puis Kingston, Ontario, et Laar en Allemagne. Depuis les 30 dernières années, là, je commence à étudier et faire de la recherche sur l'apport des Gaspésiens, des gens de ma ville natale, leur apport durant spécifiquement la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui m'a amené à voyager un peu partout en Europe et puis à Hong Kong.
Puis aujourd'hui, c'est ça, on va parler de la bataille de Hong Kong, parce que tu avais beaucoup plus de connaissances que moi là-dessus.
Mais c'est certain que dans mon cas, mon intérêt vis-à-vis de la bataille de Hong Kong, ça a pris une tournure inattendue, une tournure personnelle. Je me suis lié d'amitié au cours des dernières années avec un monsieur Philip Doddridge. Monsieur Doddridge, originaire de New Richmond, toujours résident de cette municipalité, en fait. Puis monsieur Doddridge, à l'âge de 18 ans, s'est enrôlé avec les Royal Rifles du Canada. Puis c'est ça. Lui, c'est un ancien combattant de la bataille de Hong Kong et puis un ancien prisonnier de guerre. Comme je disais, au cours des dernières années, l'occasion, je lui parle quasiment sur une base quotidienne. En fait, avant de commencer notre discussion tout à l'heure, je disais que j'y ai parlé justement ce matin. M. Doddridge, aujourd'hui, il a 98 ans. C'est ça, là, il a été très, très, très généreux avec moi pour me raconter un peu ses expériences. Puis ça m'a amené à aller à Hong Kong à mon tour. Je suis allé en 2016, qui était le 75e anniversaire de la bataille. C'était intéressant dans le sens que tout le long de mon voyage, tout le long de mon parcours, je communiquais avec justement M. Doddridge. J'ai été capable de retracer ses pas avec lui comme guide. Là. C'était quand même assez particulier là, comme expérience.
Effectivement, d'y retourner, mais pourquoi les Gaspésiens? Autant de Gaspésiens, on parle de près de plus de 200 Gaspésiens qui vont joindre le Royal Rifle of Canada puis qui vont aller à la bataille de Hong Kong.
La question est bonne, puis il faut se remettre à l'époque. Évidemment, on parle de 1940, en fait. Là. L'histoire des Royal Rifles commence en 1940. En 1940, on se souvient là, que c'est la tombée de Dunkirk, l'évacuation des forces britanniques du continent européen. Pas longtemps après, Paris tombe dans les mains des nazis. La fameuse photo là, de Hitler. Et
devant la Tour Eiffel.
Exactement. Et puis, c'est dans ce contexte de là qu'une unité militaire d'infanterie qui s'appelait les Royal Rifles of Canada, une unité qui était commanditée, on peut appeler, hein, par les frères Price. Les frères Price, c'était des industriels qui œuvraient dans le domaine du bois et les pâtes et papiers, mieux connus sous le nom des Price Brothers.
Ils étaient au Saguenay?
Ils étaient au Saguenay, et puis le quartier général était dans l'édifice Price à Québec, dans le Vieux-Québec. Sous leur leadership, si on veut, là, ils ont commencé une campagne de recrutement. Première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amalgamé une unité de réserve qui existait déjà au canton de l'Est. C'était principalement des anglophones. Le but, c'était de recruter à peu près 1000 soldats. 1000 recrues. Ça fait que là, ils étaient à court de leur chiffre. Et puis, ils ont regardé du côté de la Gaspésie, puis ils ont dit, ça semble un terreau fertile. Donc, à l'été 1940, au mois de juillet 1940. Le premier hameau qu'ils ont visité, c'est un petit Man Settlement. Man Settlement, c'est tout à l'ouest de Matapédia.
Okay.
Une petite place là, de peut-être mettons 150 personnes. Là. Tout ça pour dire que dans les semaines qui ont suivi, ils se sont rendus, ils ont ratissé la Gaspésie au complet. Là. Il n'y a pas un rang, il n'y a pas un village, il n'y a pas une réserve qui n'a pas reçu la visite des recruteurs des Royal Rifles of Canada. Puis ce qui fait que de la section de Man Settlement, aller jusqu'à Grande Grève, si on veut, là, le bout de la pointe. 203 jeunes ont été recrutés par les Royal Rifles of Canada. De façon majoritaire, c'était des anglophones, mais pas de façon exclusive. Il y avait quand même quelques francophones qui ont... on peut penser à des noms de famille comme Leblanc, C, hein, de la Roseby, Boudreau, oui. Et puis aussi, ils ont arrêté à la réserve de Listigouche et la réserve de Gascapégeac. Dans l'espace de quelques semaines, 203 jeunes Gaspésiens se sont retrouvés au sein des Royal Rifles of Canada.
J'ai lu qu'il y avait à New Carlisle des célébrations du jour du souvenir qui étaient vraiment impressionnantes parce qu'il y a un soldat qui était dans le Royal Rifle qui mentionne dans les témoignages qu'il dit à chaque jour du souvenir, c'était comme un moment important, donc ça va faciliter le recrutement parce qu'il y a comme un souvenir de la Grande Guerre qui est très vivant là, dans la communauté.
Si on retourne à l'époque du recrutement des Royal Rifles en 1940... On se trouve à quoi, là? 22 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, l'influence des anciens combattants, justement, de la Grande Guerre, était encore très présente. Trouver des volontaires pour le service militaire en temps de guerre, particulièrement durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en Gaspésie, ça n'a jamais été un problème. Des taux d'enrôlement sont historiquement très hauts. Il y a différentes théories. Là. Des fois, on entend parler là, que le plus haut, telle municipalité, c'était le plus haut taux d'enrôlement au Canada, etc.
J'ai tellement cherché pour trouver des statistiques comme ça, puis jamais il y a cet avancé, ces points-là.
C'est ça. Mais chose certaine, c'est que c'était très haut, ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand ça a venu le temps, justement, le recrutement durant la Deuxième Guerre mondiale, l'influence, pour revenir à ton point, l'influence des soldats de la Première Guerre mondiale était très... le souvenir est encore très vif. C'est ça, là, ça a certainement influencé la génération qui a suivi. Il n'y avait pas nécessairement focusé sur les mauvais côtés, là. C'était plus sur l'aventure.
Oui, parce qu'on s'entend que la Première Guerre mondiale, ça n'a pas été le niveau des pertes était incommensurable.
C'est ça.
La vie dans les tranchées, là, c'était pas comme une belle histoire racontée aux enfants avant qu'ils dorment.
Exactement. C'est pas une notion très romantique, là. C'est plus de l'ordre psychologique, peut-être. Là. On dirait qu'on a toujours vu, en tout cas, quand je dis « on », c'est large, là. On a toujours placé les anciens combattants de la Première Guerre mondiale sur un piédestal. Là. On les voyait comme des gens qui étaient très braves, des gens qui... le don de soi, etc. Là, ce genre de valeur. Je pense que cela a influencé... pas je pense, je suis convaincu que cela a influencé les jeunes en Deuxième Guerre mondiale là, quand le tour est venu pour eux. Là.
C'est exactement ce que M. Sinette me disait, que ses oncles comptait des histoires dans l'atelier de son père, puis c'était comme un moment fort là, de son enfance, tellement que lui, ses deux frères s'enrôlent, puis ensuite, quand il est trop jeune, mais à la guerre de Corée, il est comme tout de suite pas allé s'enrôler.
Oui. Et puis, ça revient un peu à ce que je disais quand moi, je me suis enrôlé moi-même. Cet élément-là, ça a joué un rôle là, dans ma décision.
Qu'advient-il de nos jeunes Gaspésiens qui s'enrôlent dans le Royal Rifle of Canada?
Et voilà. Pour commencer, eux, quand ils se sont enrôlés, eux s'étaient enrôlés pour combattre Hitler, défendre la liberté, des notions très nobles.
C'est sûr que l'Angleterre est seule pour combattre à ce moment-là. Là.
Exactement.
Quand la France est tombée, toute l'Europe continentale est sous le joug nazi.
Oui.
Ils se sont pas encore virés vers l'Est. Staline est allié, en théorie, avec Hitler. Donc, il reste seulement l'Angleterre dans toute l'Europe.
L'Angleterre est seule contre le monde.
Parce que l'Espagne est neutre et la Suisse est neutre aussi dans le...
Oui, et il faut se rappeler aussi qu'à l'époque où le recrutement des Royal Rifles se fait, là, on a parlé de Dunkirk, on a parlé de Paris, mais il faut se rappeler aussi que c'est la venue au pouvoir de Winston Churchill, qui n'est pas un élément anodin, là, dans le sens que Churchill était un communicateur hors pair. C'était l'homme tout désigné pour la situation. Et puis, il a réussi à motiver le monde, en fait. Là. C'était un des éléments... influent pour les jeunes recrues. Donc, dans leur esprit à eux, c'est pour ça que ça enroulait, mais c'est pas tout à fait ça qui s'est produit. Suite à leur enrôlement, ils se sont retrouvés à les Royal Rifles, se sont retrouvés à Valcartier pour la formation de base de soldats. Là, gauche-droite, un peu la manipulation, le maniement, des armes à feu là, de base, des exercices avec des baïonnettes, beaucoup de drills, beaucoup de conditionnement physique. Formation de base là, d'une recrue militaire. Donc, une fois ça terminé, ils se sont retrouvés au Nouveau-Brunswick, Sussex, pas trop loin de Moncton, pour faire essentiellement des emplois là, de l'emploi du temps. C'était encore de la formation. Parce qu'il faut se dire que ça, la formation fait partie de la vie militaire, indépendamment dans quelle unité qu'on se retrouve, que ce soit l'armée, la marine, l'aviation, et le rang qu'on occupe, la formation fait partie du quotidien d'un soldat. Donc, c'est beaucoup de ça à Sussex. Et puis, à partir de Sussex, ils se retrouvent à Terre-Neuve. À l'époque, Terre-Neuve ne fait pas partie du Canada. Terre-Neuve est une colonie britannique, plus ou moins indépendante, mais en tout cas indépendante du Canada. À Terre-Neuve, les Royal Rifles sont employés comme essentiellement des gardes, là, si on veut, à l'aéroport de Gander et puis à Saint-Jean.
Oui, parce qu'à l'époque, l'Amérique du Nord, autant le Canada que les États-Unis, avaient peur de la chute de l'Angleterre parce que Terre-Neuve tombait de facto aux mains des nazis qui avaient déjà des plans pour protéger le...
Oui, et puis Gander, ben, à cause de la géographie, si on veut, là, servait de dernier arrêt avant de continuer un vol vers l'Europe, là, si on veut, ou l'Angleterre spécifiquement.
Oui, parce que les avions de l'époque n'avaient pas l'autonomie pour traverser l'Atlantique. Là. C'était de Gander aux îles Faroe en Écosse jusqu'à vers Londres. Là, on parle de deux ou trois arrêts.
C'est ça, là, exactement.
Parce qu'il y avait des avions qui étaient faits ici ou il y a des avions qui venaient ici pour l'entraînement des militaires.
Puis, pour ce qui était du quotidien des Royal Rifles à Terre-Neuve ou à Gander spécifiquement, c'était ça. Là. C'était beaucoup d'emplois du temps. Là. On passait autant dans des guérites à surveiller, là, à attendre l'ennemi. Et puis, il y avait aussi là, des gens qui servaient de dispatch, là, si on veut, là, dans la tour de contrôle, etc. Les souvenirs des Royal Rifles qui étaient là à l'époque, c'est des bons souvenirs. C'était le bon temps. Là. Ils étaient jeunes, ils étaient dans l'armée, bon salaire, la vie était belle.
Donc, le temps Gander fini, ils ont sûrement en quelle date qu'ils ont l'appel pour le transfert dans le Pacifique?
Ouais. Ben en fait, c'est pas tout à fait de même que ça s'est produit. Au début de l'automne de 1941, les Royal Rifles se voient accorder deux semaines de relâche, là, si on veut, deux semaines de vacances. De façon pas trop, il n'y a pas d'explication. C'est certain que c'était une nouvelle qui était bien accueillie, là, la chance de retourner chez eux. Donc, les Royal Rifles, puis particulièrement les Gaspésiens, ben, ils se retrouvent chez eux, là, à Gaspé, New Richmond, New Carlisle, etc. Là. Les 203 Gaspésiens dont on parle sont retournés chez eux pour deux semaines. Et puis, une fois leurs deux semaines terminées, ils sont retournés du côté de Valcartier. Rendus à Valcartier, ils savent pas trop c'est quoi la mission, mais ils se font équiper avec des équipements des tropiques. Des pantalons courts, des chemises à manches courtes, etc.
Mais le chapeau blanc de la guerre des Boers.
Pas tout à fait, là, mais quand même, l'équipement là, qui laissait présager là, que ça allait dans un pays chaud, mais pas trop d'explications. Des vaccinations.
On aurait pu penser l'Afrique du Nord, par exemple.
Oui, on aurait pu. Avec les discussions que j'ai eues avec M. Doddridge et avec d'autres anciens combattants, d'autres survivants de la bataille de Hong Kong, eux, ils savaient vraiment aucune espèce d'idée, là, aucun indice où ils s'en allaient. Et puis, comme je disais, ils ont reçu des vaccinations. Puis, juste pour dire qu'on était à une différente époque, c'est certain que dans l'armée, tu poses pas trop de questions, tu fais ce que tes supérieurs t'as dit de faire, puis on suit les ordres. Hein. Ça fait que de tout ça pour dire qu'ils se retrouvent à bord d'un train. Puis ils savent qu'ils s'en vont à Vancouver, mais ils en savent pas plus que ça. Et puis ça aussi, ça devait être toute une expérience. On se met dans la peau d'un jeune soldat. Pour la plupart, il avait jamais quitté la Gaspésie. Monsieur Doddridge, que je parlais, Monsieur Doddridge est originaire de New Richmond, puis il avait jamais voyagé aussi loin que Campbellton. Campbellton était une heure de route de New Richmond. C'était vraiment une autre époque. On voyageait pas comme on voyage aujourd'hui. Donc, rendus à Vancouver, ils sont jumelés avec une autre unité d'infanterie, les Winnipeg Grenadiers, qui, comme le nom indique, était une unité qui était originaire de Winnipeg, la capitale manitobaine. Eux aussi, aucune idée où ils s'en allaient. Fait que là, ils sont mis à bord deux navires, le HMS Awatea. A-W-A-T-E-A. Awatea. Et puis, ce navire-là, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le traversier entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'était un navire qui battait pavillon néo-zélandais. L'autre navire, c'était le HMCS, ou en français, on dit NCMS, le navire canadien de Sa Majesté, Prince Robert, qui était une corvette. 1976 Canadiens ont été mis à bord de ces deux navires-là. Et puis, ils ont parti de Vancouver sans savoir la destination. Là. On embarque dans le bateau, mais on ne sait pas où on va. Là, je parle évidemment là, des soldats. Ils ne savaient pas. C'est certain que l'état-major devait avoir une idée. Là. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent à Honolulu, Hawaï. Une destination quand même assez exotique là, pour un jeune Gaspésien. Là. Puis, rendus à Honolulu, ils n'ont pas eu le droit même de débarquer du bateau. Là. Ils ont passé au moins peut-être deux jours pour le ravitaillement à Honolulu. Et puis, c'est entre Honolulu et Manille, Philippines, qu'ils ont su qu'on était en route vers Hong Kong, qui était une colonie britannique, il faut se rappeler. Là.
Effectivement, le territoire était comme une espèce de relais au niveau commercial pour l'Angleterre depuis de nombreuses années. Là, on parle de...
C'est ça.
Avant 1800. Là,
mais c'est ça, depuis le trafic... En fait, c'est le trafic de l'opium a joué un grand rôle dans le développement, si on veut, là, de la colonie de Hong Kong.
Et accessoirement, l'amour des Anglais pour le thé. Ils transigeaient par le...
Exactement. Et Radio Manille, ils ont le droit de débarquer pendant une courte période, encore dans le but de ravitailler et tout ça. C'est là qu'il y a un élément de leur arrêt à Manille qui va jouer un rôle quand même assez important dans l'histoire. Là. C'est qu'il était supposé d'avoir un bateau avec des armements, de l'équipement militaire qui allait aussi les accompagner à Hong Kong, qui a été dérouté, c'est pas le bon mot, là, mais qui a été envoyé ailleurs.
Réaffecté.
Réaffecté. Merci, M. Fournier.
Ça fait plaisir.
Ce navire-là, avec tout cet équipement, ne se rendra jamais à Hong Kong.
Ça aurait sûrement donné un coup de main.
Ça aurait été utile.
Ça aurait été utile lors de la bataille de Hong Kong.
C'est ça
n'aurait pas pu nuire.
C'est ça, exactement.
Donc, après ce long périple, c'est l'arrivée à Hong Kong.
Le 22 octobre, si ma mémoire est bonne, mais tenez-moi pas rigueur sur la date. Là. Mais c'est la fin octobre. Si on se met à la place d'un jeune soldat, un jeune Gaspésien qui arrive à Hong Kong, M. Doddridge me disait, c'est pareil comme si j'avais atterri sur la Lune. Tous les repères culturels qu'il y avait étaient faussés, je veux dire, dans le sens que, d'un, il faut se rappeler que, un peu de background, là, se rappeler que dans ce coin de l'Asie, depuis 1937, les Japonais et les Chinois étaient en guerre ouverte. Là. La ville de Hong Kong se trouvait à être une ville de réfugiés. Oui, il y avait le côté colonie britannique. C'était le contraste entre les riches et les pauvres, là, puis qui existe toujours à Hong Kong, en fait. Là. C'était plus flagrant à cette époque. Donc, les deux navires canadiens, le HMCS, NCSM, Prince Robert et le Awatea arrivent à Hong Kong. Il faut se rappeler aussi qu'il y avait déjà une garnison britannique à Hong Kong. Il y avait des forces britanniques, il y avait des forces de l'Inde, il y avait des régiments écossais qui étaient déjà sur le territoire.
On parle d'environ combien de soldats si on fait l'ensemble du contingent?
On parle de 5000. Les Canadiens débarquent au quai Holt's Wharf. Le quai Holt's à Hong Kong. Il faut se rappeler aussi que Hong Kong, essentiellement, il y a deux parties à Hong Kong. Il y a la partie qui est sur le continent asiatique, si on veut, et puis il y a l'île de Hong Kong. À leur arrivée à Hong Kong, ils vont du côté du continent. Ils marchent avec tambour et trompette et tout le kit, là, le long de la rue principale, le chemin Nathan Road, c'est l'équivalent à la rue Sainte-Catherine, Montréal ou la rue Yonge à Toronto, là, l'artère principale. Donc, ça a dû être tout un spectacle. Ils ont marché le long de cette rue pendant à peu près 2 ou 3 kilomètres jusqu'au camp de Sham Shui Po, un secteur de Hong Kong, où il y avait des baraques pour les soldats. Et puis, durant leurs 2-3 premières semaines, c'était... Les gars vivaient... c'était la grosse vie, parce que le taux de change était très favorable pour les soldats canadiens, et puis c'était une ville ouverte, là. Il y avait tous les vices qu'on pouvait imaginer. Donc, les jeunes soldats du Royal Rifles se sont payés du bon temps durant les premières semaines qu'ils étaient là. Avec l'argent canadien, tu étais capable de te payer un assistant, là. Les gars avaient tous des gens qui faisaient le ménage dans leur cubicule et tout ça. Là,
ça attendrit un peu la discipline militaire.
C'est ça, là, exactement. Mais quand même, l'armée étant l'armée, là, le quotidien, durant les premières semaines, ça ressemblait encore toujours à la formation, toujours. Il fallait qu'ils se familiarisent avec leur position défensive. Parce que faut se rappeler là, qu'ils étaient là pour quand même accomplir des tâches. Puis, à la base, leur mission, c'était d'amener support à la défense de la colonie de Hong Kong en cas d'attaque ennemie. Mais l'état d'esprit parmi les soldats et les leaders politiques et militaires de l'époque était que le conflit entre les Japonais et les Chinois était un conflit entre les Japonais et les Chinois, puis que Hong Kong, dans le fond, était plus ou moins protégé de ce conflit, dans le sens que c'est pas notre bataille, puis on n'est pas vraiment à risque, mais on va quand même prendre le temps d'essayer de développer une stratégie défensive. Le camp des Canadiens, les Royal Rifles et les Winnipeg Grenadiers, était sur le côté du continent, mais leur responsabilité défensive était sur l'île de Hong Kong. De façon quotidienne, ils prenaient des traversiers et allaient sur le côté de l'île de Hong Kong pour se familiariser justement avec ces positions-là. L'île de Hong Kong était divisée en deux, la partie est et la partie ouest. Comme des fois les choses se font bien, la partie ouest, c'était les Winnipeg Grenadiers, et la partie est, c'était le secteur dans lequel se retrouvaient les Royal Rifles.
Ainsi que nos Gaspésiens.
Exactement, nos 203 Gaspésiens.
C'est sûr qu'à l'époque, quand tu parles du haut commandement, l'Allemagne nazie a envahi en 1941 l'Union soviétique. C'est sûr que les militaires pensent que le Japon, comme il est membre de l'Axe, va attaquer la péninsule du Kamtchatka. Et ainsi, pas trop troubler justement cette partie-là. Mais le 7 décembre, les Japonais jouent un tour à tout le monde, surtout aux Américains, et attaquent l'île d'Hawaï. C'est le début de l'attaque de Pearl Harbor et le début de l'entrée en guerre des Américains durant la Deuxième Guerre mondiale.
Exactement. Parce que lorsqu'on pense justement au 7 décembre, ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire, la première chose qui nous vient à l'esprit, 7 décembre 1941, c'est l'attaque justement des Japonais sur le port de Pearl Harbor à Hawaï. Par contre, un peu perdu dans cette histoire-là, c'est que de façon simultanée, les Japonais ont attaqué les Philippines, la Malaisie et la colonie britannique de Hong Kong. Parce qu'il faut se rappeler aussi, là, à cause des fuseaux horaires et tout ça, le 8 décembre à Hong Kong et le 7 décembre à Hawaï se trouvent être essentiellement le même temps, là. Le 8 décembre 1941, les Japonais attaquent. Puis ce qui est intéressant, c'est intéressant à plusieurs niveaux, mais particulièrement par rapport aux Royal Rifles, dans le journal de bord des Royal Rifles, qui commence le 1er décembre, je crois, à peu près. Il y a des entrées dans le journal de bord du 5, 6 et même le 7 décembre qui font référence justement à le niveau de menace. Il y a des inscriptions dans le journal qui disaient que le risque était pratiquement nil que les Japonais allaient attaquer Hong Kong. Puis évidemment, ça s'est avéré. Hein. Une fausse déclaration, là, si on veut. Puis les Royal Rifles, ben en fait, le contingent canadien, qui, en passant, allait sous le nom de la Force C, Sea Force, s'est retrouvé un peu au dépourvu, parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à l'attaque. Première priorité, c'est de se rendre justement aux positions défensives sur l'île de Hong Kong. Donc ça s'est fait quand même de façon rapide, quand même. C'est pas avant la mi-décembre, à l'entour du 17 décembre, que les Japonais mettent les pieds sur l'île de Hong Kong. Le premier contact, si on veut, là, entre les Canadiens et les Japonais, là, s'est fait un petit peu plus tard, une dizaine de jours plus tard, sur l'île de Hong Kong. Et le premier contact s'est fait avec les Royal Rifles, la compagnie A des Royal Rifles.
Sur l'ensemble des 2000 soldats qu'il y avait là, des Royal Rifles, combien avaient déjà eu un baptême du feu?
La question à 100 000 $. Une poignée. Il y avait quelques vétérans de la Première Guerre mondiale dans les rangs des Royal Rifles, surtout dans les rangs des officiers, justement Price, était un vétéran de la Première Guerre mondiale. Et le colonel Holm était un vétéran de la Première Guerre mondiale. Puis il y avait quelques soldats aussi là, dans les rangs des Royal Rifles qui étaient des vétérans. Mais pour la plupart, c'était essentiellement exactement leur baptême de feu.
La seule chose qu'il avait vu, c'était de la chasse en Gaspésie avec la carabine de leur père, probablement.
C'est ça.
À l'âge qu'il avait. Là.
C'est ça, exactement. Parce qu'on parle. Puis oui, ça porte un bon point. Phénomène, si on veut, là, de la campagne de recrutement des Royal Rifles, c'est qu'à l'intérieur des rangs, c'est pas quelque chose qui est unique aux Royal Rifles, là, mais dans le cas qui nous intéresse, des 203 Gaspésiens qui ont été recrutés en 1940, il y avait quand même une partie importante qui avait moins de 18 ans. Là. On parle de jeunes de 17, même 16 ans.
Le plus jeune étant...
Il y avait un monsieur Bill McWhorter, qui a été résident de longue date de Gaspé, qui est décédé pas tellement longtemps, dans la dernière année. Monsieur McWhorter avait 16 ans lorsqu'il a été pris prisonnier de guerre. C'est quand même une situation quand même assez tragique. Là.
Ouais, j'avais vu dans les Missing in Action, puis ouais. Il y avait les journaux sortaient des... Oui. Puis il y avait, je suis tombé sur un nom comme ça, des fois un soldat anonyme qui s'appelait Ranny Briand, qui était de Douglastown. Oui. Qu'on a très peu d'histoire de lui, sauf qu'il s'est enrôlé à 16 ans et quelques, et à 18 ans, il va aller finir ses jours à Hong Kong, dans un endroit qu'il ne va probablement pas être capable de placer sur la carte.
Ben, c'est ça.
Quelques années plus tôt.
Ben oui, la plupart des jeunes Royal Rifles. Puis je leur enlève rien, quoi que ce soit. Là. Mais c'est ça, Hong Kong. Je trouve Hong Kong sur une carte.
Exactement.
Pas certain. Donc, c'est ça. Ça a été leur baptême de feu là, pour. La grande majorité d'entre eux. Et puis, on parle de, en termes de force, là, si on veut, là, on parle du 10 pour 1. Le Japonais versus Canadien. Puis, c'était des forces aguerries. Là. Ça faisait quand même déjà quelques années.
Quatre ans qu'ils étaient en combat avec le. Eux, ils n'étaient pas à leur baptême du feu, là, les Japonais.
Non, exactement.
Puis ils avaient beaucoup d'expérience. Là.
Nous, c'est ça. Là, on avait l'expérience de Gander et Saint-Jean. Là.
La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. Merci à son invité, l'historien Tom Hayden. À la réalisation, Émilie Gagné. Un merci particulier à l'ensemble des Gaspésiens du Royal Rifle of Canada et leurs familles pour les témoignages. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section podcast.